France Musique.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Delis.
Tant mieux, parce que je suis contente de vous voir avec un peu d'avance,
ah,
Christophe.
Bah oui,
bonjour à vous.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous.
C'est la voix de Castra qui vous intéresse ce matin.
Et effectivement, c'est un des derniers grands mystères concernant le son du XVIIIe siècle. À quoi pouvait bien ressembler la voix de ces enfants épouvantablement castrés qui gardaient un larynx d'enfant avec le coffre d'un adulte? Et pour ça, j'ai eu au téléphone cette semaine mon ancien prof de chant baroque, Jean-François Lombard. Je lui ai fait écouter un enregistrement de 1904, sur lequel figure la voix du dernier castrat, Alessandro Moreschi. Et voici son analyse. Tendez l'oreille.
On entend très clairement sur le AV, sur la consonne V, qui est une consonne voisée, donc qui se chante. En fait, c'est comme s'il attaquait par le bas du larynx et qui remontait tout de suite sur le E de V. AV, il y a une espèce de, comme un coup de glotte presque. Ça, c'est très étonnant, c'est quelque chose qu'on ne ferait absolument plus maintenant. Je pense qu'on essaierait au contraire de faire quelque chose d'extrêmement legato et de faire la consonne à la hauteur de la voyelle, en fait. Quand il fait l'attaque sur le grazia plena, il passe vraiment du registre de tête à la poitrine et on entend vraiment les deux voix très distinctement, mais c'est quand même dans un legato. Ça c'est intéressant. On entend les deux registres, mais il n'y a pas vraiment de cassure. Et ça, je pense que j'ai l'impression quand même assez typique des castrats. Enfin, c'est difficile de dire des castrats dans la mesure où on ne connaît qu'un sur tout le lot qu'il y a pu avoir avant. J'ai l'impression qu'il y avait quand même cette recherche de chanter en voix de poitrine tant que c'était possible, parce qu'évidemment, ça donne énormément de force à la voix et beaucoup de puissance, en fait. Oui, attends, le mouiller, les bouches, vraiment, je trouve que la note qu'on entend, on pourrait l'entendre chez un soprano femme à l'heure actuelle. C'est exactement la même couleur, mais avec une voix quand même qui est, je trouve, très ronde dans cette partie du registre de sa voix. C'est une voix très soulevée, en fait, très résonante. On entend quelque chose d'assez corsé dans cette voix, d'assez puissant, je trouve. Sur l'attaque sur le Maria, c'est pareil, le I est très résonnant, pour le coup très bien placé, c'est vraiment une note parfaite. Effectivement, quand il est sur certaines notes du registre aigu de sa voix de poitrine, on entend une couleur de ténor. Ça rappelle un tout petit peu Marilyn Horne, quand on l'entend dans le grave de sa voix, parce que je trouve qu'il y a un peu cette utilisation de la voix de poitrine qu'on entend finalement très peu maintenant. À chaque fois que j'ai entendu Marilyn Horne, je me suis toujours dit, mais on dirait un ténor. Il n'y a pas de forçage en fait dans cette voix. On sent quand même que les choses sont souples et que effectivement, quand il monte en voix de poitrine, oui, il n'y a pas vraiment de difficulté pour lui. Contrairement parfois à maintenant, on a du mal un peu à monter assez haut en voix de poitrine. On travaille peut-être pas suffisamment assez cette souplesse du larynx. Et là, c'est assez étonnant de voir qu'il arrive à monter quand même très haut en poitrine sans qu'on ait l'impression que ça va casser. On sent que ça va juste à un moment donné passer sur un autre registre, et ça, j'imagine que c'est vraiment typique des castrats parce que leur larynx, évidemment, restait un larynx d'enfant, mais simplement, évidemment, avec une capacité pulmonaire exceptionnelle parce qu'une capacité pulmonaire d'homme adulte, quoi.
Il faut savoir que quand c'était chanté à l'époque, c'était chanté par quelqu'un qui n'avait pas de difficultés, finalement.
Finalement, oui, il n'y avait pas ces difficultés de passage d'un registre à l'autre. Et donc, évidemment, ça devait quand même simplifier la tâche. Il y avait cette technique du fait même qu'ils étaient castrats.
Timbre d'un castrat de 1904, analysé 120 ans plus tard. Merci pour cette riche idée.
Merci à vous d'avoir écouté.
Voilà. Christophe Dilis, bien sûr. Se tendez l'oreille est à la réécoute.
Voilà, et merci à Jean-François Lombard qui a cité donc Marilyn Horn. Et j'encourage tout le monde à écouter cette Marilyn Horn qui avait ce timbre assez grave qui peut finalement retracer le timbre des castrats à l'époque.
À la semaine prochaine, Christophe.
Bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.